Bien, bonsoir à tous et à chacun, vous qui êtes présents dans le salon Albert Mola et vous qui nous écoutez grâce au site mola.com. Ce soir, nous recevons Nicolas Bavret pour son livre « Historien et économiste », pour son livre « Réveillez-vous », publié chez Fayard. Mesdames, messieurs, j'ai insisté à ce que Nicolas Bavret vienne à Bordeaux car il y a urgence. Tout ce qui est dans ce livre est vrai. Je vous le répète, tout ce qui est dans ce livre est vrai. Je vous demande de le lire attentivement, de le faire lire à vos amis, vos enfants, vos voisins, tous les gens que vous connaissez. Je vous demande d'exiger à ce que les instituteurs ou les professeurs, qu'on appelle maintenant professeurs aux écoles, les professeurs des lycées le lisent. Mesdames, messieurs, il nous faut sortir cet impératif de notre nombrilisme, quitter nos arrogances, nos aveuglements, notre médiocrité. Regardez de ce que nous entretient depuis ce matin tous les journaux, les radios, les télévisions, des 12 heures d'audition de M. Sarkozy, dont on n'a rien à faire, des bisbilles lamentables de l'UMP, encore moins, alors que nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes au bord du gouffre. Ça suffit. Vous êtes citoyen de la République française. Vous devez exiger un redressement moral et intellectuel de la France. Monsieur Bavret, vous allez d'abord nous faire un état des lieux. Ensuite, nous expliquer pourquoi cette situation économique est à ce point dégradée. Pourquoi cela ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner, puis ce qu'il faut entreprendre pour sortir de, j'allais dire un gros mot, mais enfin de la mouise et de la situation gravissime dans laquelle nous sommes. Monsieur Bavret, à vous.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation et merci de cette introduction impressionnante. Chacun sait que Bordeaux est la ville de Montesquieu, du libéralisme, de la modération. Et donc, je prends cette introduction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un rare privilège et un rare hommage venant de la bouche de celui qui est le modérateur, justement, de cette soirée et qui est peu habitué à ses coups de gueule. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre au programme qui m'est fixé et qui est important. En revenant un peu sur l'empilement des crises, effectivement, en insistant sur la partie française. Chateaubriand disait que chaque époque historique dispose d'un esprit-principe. Et l'esprit-principe du XXIe siècle, nul ne peut douter que c'est la mondialisation. Cette mondialisation est faite à la fois d'un capitalisme universel, d'un monde qui est multipolaire. Nous n'avons plus la réassurance par un seul grand pays, une seule grande puissance, comme le furent le Royaume-Uni au XIXe ou les États-Unis au XXe siècle. Une révolution technologique impressionnante qui touche bien sûr l'information, mais aussi les transports, mais aussi l'énergie. Et puis en même temps, ce monde reste un monde uni par le capitalisme, mais extrêmement désuni, hétérogène par les valeurs et les institutions. Et nous venons d'en avoir un exemple assez remarquable avec les changements, ou en tout cas les mécanismes de pouvoir dans les deux pays les plus puissants de ce système, les États-Unis et puis la Chine. Aux États-Unis, on a dépensé 6 milliards de dollars quand on prend l'élection présidentielle, les primaires et puis les élections au Congrès. 6 milliards de dollars pour rien. Le président est toujours là. L'équilibre du Congrès n'a pas bougé. Et on peut espérer que pour ce prix-là, on arrivera à surmonter le blocage des institutions américaines et à passer le compromis qui est déjà d'ailleurs négocié depuis 2010, puisqu'il a déjà fait l'objet d'un rapport qui donne les grandes lignes de ce que devrait être la solution. Mais cette solution a pour l'instant été bloquée par des problèmes purement partisans. De l'autre côté, la Chine, le 18e congrès, la cinquième génération de dirigeants de la Chine populaire, la première génération qui n'aura pas connu la révolution de 1949. 70% des responsables ont été changés, ça a commencé en 2011, et on voit donc l'arrivée d'une nouvelle génération qui devra conduire une transition très compliquée. Pourquoi ? Parce que le modèle chinois est aussi en bout de course et que la Chine va devoir, si elle veut échapper à la trappe des revenus intermédiaires et accéder à un développement et poursuivre son développement, elle devra accepter à la fois plus de concurrence, moins d'entreprises d'État, un peu plus, beaucoup même plus d'État de droit et sans doute un peu de liberté politique. Donc c'est le moment de remise en question le plus important depuis les quatre modernisations de Deng Xiaoping en 1979.
Donc voilà. D'ailleurs, vous dites, c'est l'heure de vérité.
C'est l'heure de vérité, un peu pour tous, parce que dans cette crise qui est là, donc cette grande crise de la mondialisation, comme dans toute crise, ça vient de crisis en grec, c'est le point décisif de la maladie où on va vers la guérison ou vers la disparition. Il y a un monde qui naît et un monde qui meurt. Donc il y a aujourd'hui des ruptures historiques fondamentales qui sont à l'œuvre. C'est la fin du grand cycle de domination de l'Occident depuis le XVIe siècle. C'est la fin du cycle de domination des États-Unis au XXe siècle. C'est la fin du capitalisme dérégulé. Et donc, en fait, chacun va se positionner pour la suite, et on va le voir à la fois par rapport à ces crises et à la capacité à remettre en question les modèles. Donc, nous avons trois crises qui sont à un moment décisif. La crise de la mondialisation, parce que les moyens politiques conjoncturels qu'on a mis en œuvre par le budget ou la politique monétaire sont en bout de course. Et donc, c'est maintenant par les réformes structurelles uniquement qu'on peut imaginer des sorties de crise. La crise de l'euro, parce que, eh bien, elle n'est nullement achevée, contrairement à ce que certains ont avancé. Et donc, on le voit aujourd'hui avec les problèmes récurrents de la Grèce, les problèmes persistants de l'Espagne, et puis demain, peut-être, l'accélération de la dégradation s'il devait y avoir un choc sur la dette française. Le problème de l'euro, on a progressé, mais on ne l'a pas réglé. Et puis, le dernier problème, c'est le problème de la France, qui est un point critique. Point critique pour elle-même, parce que son déclin est en train de s'emballer, parce qu'elle peut faire sauter l'euro, puisque tous les mécanismes de réassurance de l'euro sont fondés sur la double signature française et allemande. S'il y a un choc sur la dette française, eh bien, ces mécanismes de solidarité seront rendus caducs. Et s'il y avait un problème sur l'euro, eh bien, on aurait clairement une dépression mondiale. Donc notre pays, aujourd'hui, est sans doute le risque le plus important pour lui-même, ça c'est sûr, mais également pour l'euro et peut-être pour l'économie mondiale. Et la clé, vous voyez, c'est là-dessus que ensuite je vais insister, vous voyez que chacun, y compris les fameux BRICS dont on a parlé, Chine, Inde, Russie, Brésil, mais aussi les États-Unis. Chacun, aujourd'hui, doit réinventer des modèles qui sont en bout de course. Et c'est la capacité à le faire qui déterminera non seulement la santé des économies, mais la hiérarchie des puissances dans le XXIe siècle. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre un peu ces trois crises pour essayer de voir un peu le point où elles en sont et comment on peut essayer de les dénouer. Donc la première, c'est donc la crise de la mondialisation. La mondialisation, contrairement à ce qu'on a dit en France, elle n'est pas heureuse ou malheureuse, elle n'est pas diabolique ou irénique ou providentielle. C'est un fait historique. Donc comme tous les faits historiques, il faut l'analyser avec ses forces et ses faiblesses, mais aussi avec ses changements, ses mutations. Elle est née en 1979 avec la nouvelle politique monétaire aux États-Unis qui a donné la priorité à la lutte contre l'inflation, avec également l'élection de Madame Thatcher, les réformes libérales, avec l'élection de Jean-Paul II à la papauté, l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques qui marque le début de la fin de l'Empire soviétique, avec également la révolution iranienne de 1979 et puis les quatre modernisations de Deng Xiaoping en Chine qui marquent le début des 30 glorieuses et qui font passer la Chine de $300 par tête à 5 500 aujourd'hui, avec une économie qui est devenue la deuxième du monde. Tout ceci progresse dans les années 80, triomphe dans les années 90, une fois le mur de Berlin tombé et l'Empire soviétique disparu, et entre dans une période de troubles et de turbulences croissantes à partir de 2001. Les attentats du 11 septembre, les bulles spéculatives enchaînent, et puis tout ceci culmine avec la faillite de Lehman Brothers il y a 4 ans, le 15 septembre 2008. Donc, Cette mondialisation, elle a permis une chose extraordinaire que les tiers-mondistes avaient rêvé mais systématiquement échoué à faire parce qu'ils ne développaient que le sous-développement. Elle a permis le décollage du Sud. Et moralement, historiquement, c'est un très grand progrès.
Le Sud, c'est ce que vous appelez le grand retournement.
Le grand retournement, voilà. Et qui est un retournement réel, puisque quand on parle aujourd'hui des pays développés comme des pays industrialisés, c'est faux. Ce sont les pays émergents qui font aujourd'hui 52% de la production industrielle. Ils font aussi 48% des exportations mondiales. Ils représentent 34% de la demande aujourd'hui contre 27% pour les États-Unis. Et ils ont fait émerger une classe moyenne de 1 milliard d'hommes qui représente aujourd'hui la plus grande source pour la croissance mondiale à côté de l'économie de la connaissance, à côté de l'économie de l'environnement. Alors, cette expansion formidable a évidemment été accompagnée, a eu des conséquences sur les pays dits développés. Et ceux-ci ont effectivement transféré des pans entiers de leur production en amortissant et en masquant ceci par une accumulation de dettes qui a permis de continuer à alimenter le pouvoir d'achat. Donc ça a été le grand déséquilibre de la mondialisation. D'un côté, des pays qui épargnaient, qui investissaient, qui exportaient, Chine, Asie, Allemagne. De l'autre, des pays qui s'endettaient pour consommer et importer. C'était les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou la France, avec de la dette privée ou de la dette publique, suivant les systèmes. Bon, et tout ceci a donc, entre une politique monétaire trop expansionniste, les bulles spéculatives, les déséquilibres de la mondialisation, tout ceci a abouti à ce grand mouvement de déflation par la dette de 2008 qui est toujours à l'œuvre. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que, fondamentalement, nous avons bien, comme en 1929, une grande déflation mondiale qui continue à produire ses effets. Mais contrairement à 1929, on a pris les bonnes mesures au départ, c'est-à-dire qu'on a sauvé les banques, 5 000 milliards de dollars dans le monde. On a fait un plan keynésien de soutien de la demande mondiale, 30% du PIB des pays développés, dont la dette est passée de 75% à 105% de leur richesse nationale. Et pour l'instant, on a vaille que vaille évité le protectionnisme, qui est passé de 1% à 3% des échanges mondiaux, mais qui reste contenu et qui est pour l'instant surtout concentré sur des pays comme la Russie, le Brésil ou l'Argentine. Simplement, aujourd'hui, cette politique qui a été menée à juste titre, eh bien, elle est au bout de ce qu'elle peut produire. Pourquoi ? Parce que, comme je le rappelais, politique budgétaire, les pays développés sont à 105% de dette publique, les États-Unis à 103%, la zone euro à 92%. On ne peut pas aller plus loin parce que eh bien, la crise de la dette souveraine nous rappelle que, contrairement à ce qu'on prétendu beaucoup, on ne peut pas indéfiniment accumuler de la dette et que les États, contrairement à ce qui est dit, font faillite comme les entreprises. Il suffit de regarder l'Espagne ou la Grèce. Ce sont des pays qui ont régulièrement fait faillite dans les 150 dernières années. Il suffit de regarder l'Argentine ou la Russie en 98%. La deuxième chose, c'est la politique monétaire, donc la création de monnaie, qui est une autre manière d'essayer de doper l'économie. Les banques centrales des pays développés, aujourd'hui, portent 18 000 milliards de dollars d'actifs de qualité douteuse. C'est le tiers du PIB mondial. Là encore, on est au bout de ce qu'on peut faire pour créer de la monnaie. Donc ça veut dire que maintenant, ça n'est que par les réformes sur l'économie réelle qu'on peut essayer d'ajuster le système, de retrouver de la croissance, de diminuer le chômage, de réduire les déséquilibres de la mondialisation, faisant en sorte que les pays du Sud se réorientent vers leur consommation et la demande intérieure et que les pays du Nord réinvestissent, innovent, fassent des gains de productivité pour se remettre à avoir une production suffisante en face de leur consommation. Donc, voilà aujourd'hui ce grand dilemme qui se passe sur fond de politiques qui ont été renationalisées et donc qui peinent à gérer ces grands risques systémiques de la mondialisation, que ce soit des risques financiers, industriels, environnementaux, climatiques ou autres, avec également une complication qui vient du système que je vous ai décrit, c'est-à-dire un système où on n'a plus de puissance économique dominante comme le furent les États-Unis, où les facteurs de puissance se sont disséminés partout dans le monde et où en même temps, on a une perte, une dissolution de la capacité de leadership parce que les États-Unis n'en ont plus les moyens et que des pays comme la Chine n'ont aucune envie d'intégrer, au-delà de leurs objectifs nationaux de croissance, de rattrapage, de revanche sur l'Occident, ils n'ont pas envie de supporter le poids du leadership avec ce que ça implique de prendre en compte les intérêts du système et donc, certes, de défendre ses intérêts nationaux, mais d'accepter aussi de mettre une partie de sa richesse au service de la stabilité du système mondial. Venons-en maintenant à l'Europe. Donc, quand on regarde ce système mondial, la croissance donc est revenue, grosso modo, de la croissance mondiale de 5% à 3%, ce qui est un niveau plutôt faible pour le monde, compte tenu de la croissance démographique. La Chine est passée de 10,5% à 7,5%. L'Asie tourne autour de 7%. Les États-Unis sont à 2,2%. L'Europe est à 0%. La zone euro est en récession. Donc, on a bien un problème de maillon faible. L'Europe est le seul des grands pôles mondiaux à être aujourd'hui en récession, donc à connaître ce double plongeon, double dip, comme disent les États-Unis, qui montre bien la difficulté à sortir de la crise. Donc, l'Europe cumule trois sortes de difficultés. Premièrement, à court terme, donc, la récession, le chômage qui sont aggravés par les politiques d'austérité. Deuxièmement, un choc sur les dettes souveraines avec une spirale perverse de déstabilisation des dettes et puis de déstabilisation des bilans bancaires. Et enfin, une divergence aiguë au sein de la zone euro, c'est clair, entre le Nord et le Sud, mais également y compris les stratégies qui sont menées par des pays aussi comme le Royaume-Uni par rapport à la zone euro.
Pourquoi vous dites que l'Europe s'est arrêtée à Maastricht ?
Alors, l'Europe s'est arrêtée à Maastricht parce que les principes qui ont été élaborés au moment de Maastricht sont des principes qui sont faux et qui ont démontré leur fausseté. Je m'explique. L'euro est la troisième tentative historique de création d'une union monétaire. On a eu l'Union latine en 1865, qui est venue de Français autour de Napoléon III. L'idée, c'est en même temps que les gens créaient la Croix-Rouge après la bataille de Solferino, parce que ça avait été une boucherie abominable, un certain nombre de Français ont eu l'idée de faire une monnaie universelle, parce qu'à l'époque, il y avait un double étalon or et argent en concurrence, et parce que ça créait de l'instabilité. Donc l'idée, c'était d'avoir le même poids, les mêmes normes pour les pièces, et d'essayer de trouver une espèce de référence entre le dollar, la livre. Alors, l'Union latine a peu marché, parce que les Britanniques et les Américains n'ont pas voulu rentrer dans le jeu, mais elle a quand même marché, parce qu'aujourd'hui, si vous achetez encore des pièces d'or ou d'argent, c'est toujours le format de l'Union latine. Si vous achetez des pesos mexicains, donc il y a quand même un héritage numismatique, j'allais dire, de cette... Mais bon, par ailleurs, après la défaite française en 1870, les réparations de 5 milliards de francs or qu'il a fallu payer à l'Allemagne, il va de soi que l'Union latine est partie dans les limbes. La deuxième tentative, ça a été le bloc or en 1933. Ça a été une calamité parce que c'était encore une idée française. On a voulu rester aux parités or alors que tous les autres pays dévaluaient. On a fait ça avec les Italiens, les Polonais, les Belges, les Pays-Bas, les Suisses. Et en fait, ça a rajouté de la déflation à la déflation. Donc, c'est pour ça que les pays du bloc or sont ceux qui ont la plus mauvaise performance dans les années 30. Donc, deuxième échec. Alors, j'en viens à l'euro. Les économistes, forts de ces échecs et forts aussi d'un certain nombre de démonstrations, ont montré que pour qu'une zone monétaire fonctionne, il faut 5 conditions. Un gouvernement économique sur cette zone pour pouvoir réassurer les chocs. Une banque centrale qui soit un prêteur en dernier ressort, de la solidarité pour faire des transferts entre les zones suivant le niveau de productivité et de santé économique des différentes zones, de la responsabilité budgétaire, et puis liberté et mobilité des facteurs de production, capital et travail. Donc dans le système de Maastricht, je n'avais aucune de ces conditions. Pas de gouvernement économique. Une banque centrale dont il était explicitement indiqué qu'elle ne pouvait pas être un prêteur en dernier ressort. Interdiction de solidarité, ce qu'on appelle le bail-out, la no bail-out clause, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir au secours d'un État qui avait des difficultés. Et d'ailleurs, il était postulé qu'aucun pays ne pouvait faire défaut. Pas de responsabilité, c'était les critères de convergence, mais qui étaient des critères sans aucune sanction ni réalité.
C'est ce que vous appelez les vides.
Voilà, et donc, pas de
liberté. Et on est entre les mains de la cour de Karlsruhe.
Le capital, lui, circulait de manière à peu près libre, mais le travail très peu. Donc il était logique, même en dehors de la grande crise de la mondialisation, tôt ou tard, on aurait eu un problème sur cette zone. Et c'est donc ce qui est arrivé. Et alors, quel est le point aujourd'hui qui va m'amener à la France ? On a progressé de manière chaotique avec cette multiplication de sommets interminables et dramatiques, mais on a quand même progressé sur ces 5 points. Aujourd'hui, on voit émerger un gouvernement de la zone euro à 17, d'autant que le Royaume-Uni prend ses distances. Merci à Mario Draghi, qui a pris le contre-pied de son prédécesseur Jean-Claude Trichet. La Banque Centrale Européenne est maintenant un prêteur en dernier ressort. Le problème, c'est qu'elle ne l'est pas dans les traités, mais elle est dans les faits, puisqu'elle prête de manière illimitée aux banques et aux États à partir du moment où il y a un plan d'ajustement. Solidarité, on a le mécanisme de stabilité qui porte sur 750 milliards d'euros. Ça suffit pas forcément, ça suffit pour les pays qui sont actuellement en crise, c'est juste pour l'Espagne et on ne peut rien rajouter après l'Espagne, mais c'est quand même une force de frappe réelle. On a le traité budgétaire maintenant et les règles d'or. Et pour la mobilité capital-travail, on a l'union bancaire qui est en train de naître. Et puis, on a un facteur qui est sous-estimé, c'est-à-dire qu'on a maintenant une mobilité du travail sous la pression de la crise. Quand on regarde au premier semestre 2012, il y a eu 550 000 entrées sur le territoire allemand au premier semestre. Les Turcs rentrent chez eux. Et sur ces 550 000 entrées, il y en a 440 000 qui sont des jeunes Européens d'Europe du Sud qui sont en train d'immigrer en Allemagne. Donc, on dit toujours que l'Allemagne a une démographie sinistrée. C'est vrai. Mais elle est en train de la corriger avec des jeunes qualifiés qui viennent d'Europe du Sud et qui s'installent en Allemagne et qui, une fois qu'ils sont installés, vraisemblablement, construiront tout partie de leur vie en Allemagne. Donc, c'est une mobilité.
Mais ils ne viennent pas en France.
Et pour l'instant, c'est certain qu'ils ne viennent pas en France. Je reviendrai sur la France, mais la France, malheureusement, pour l'instant, on a 50 000 jeunes par an qui décident de quitter le territoire français. Donc, chez nous, le capital humain, on est un pays d'Europe du Sud également par le fait que le capital humain est en train de partir de notre pays. Donc, le système européen s'améliore, mais vous voyez que pour arriver à stabiliser l'Europe, il faut un double effort, que le système s'améliore et que, par ailleurs, les États fassent leur travail. Pourquoi ? Parce que la politique de Mario Draghi, qui est donc une politique de création monétaire comme la Fed, si on n'arrive pas à réformer et donc à mettre de la production en face de cette création monétaire, eh bien, on aura la grande crainte des Allemands, c'est-à-dire qu'on va générer de l'inflation sans production. Et donc, on va bel et bien amorcer un cycle inflationniste et on aura faible croissance, chômage et inflation. Et là, c'est vrai que ce n'est pas brillant. Donc, il est vital que, pour éviter ça, la politique monétaire, elle ne règle pas le problème de fond, elle permet de gagner du temps. C'est fondamental de gagner du temps. Mais elle ne peut être efficace que si les États font les réformes correspondantes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'Europe du Nord va bien et continue à faire des progrès de compétitivité qualité. L'Europe du Sud fait des progrès spectaculaires. Alors la Grèce est sinistrée. L'Irlande, le plan d'ajustement a marché. Ce n'est pas un pays d'Europe du Sud, mais c'était un pays en ajustement. L'Irlande a de nouveau accès au marché. Gain de productivité en Espagne l'an dernier, 7%, Portugal, 5%, Italie, 3%. La balance courante espagnole est passée de moins 10 à moins 2. Donc, une fois qu'on a réglé leurs problèmes de bulles immobilières et bancaires, l'Espagne peut repartir. L'Italie, la balance commerciale est équilibrée. L'Italie est en excédent primaire. Mario Monti a fait la réforme de la fonction publique, des régimes de retraite, du marché du travail. Il libéralise le secteur des services. Il est en train de passer un accord pour remettre de l'ordre dans les gouvernements locaux et installer une responsabilité budgétaire locale.
Ce qu'on ne fait pas.
Bon, si tout ça n'est pas détruit par les prochaines élections de mars et le retour au pouvoir de la classe politique traditionnelle en Italie, très franchement, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Schröder en Allemagne. Et donc, il reste un pays qui est le nôtre, qui pose le problème que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que c'est un pays qui présente les mêmes problème que l'Europe du Sud, mais qui, pour l'instant, n'a engagé aucune réforme, voire qui a pris exactement le contre-pied. Donc, c'est la troisième partie du propos. Quand on regarde la France, donc, il est certain que le déclin de notre pays, maintenant, ça a été un objet de polémique, mais je pense que c'est aujourd'hui difficile de le contester. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, j'allais dire, sur les thèses que j'ai commencé à défendre, sont aujourd'hui d'accord le FMI, l'Union européenne, les agences de notation, l'Allemagne. Ça finit quand même Mario Monti en Italie, dans ses propos privés. Donc certes, comme d'habitude avec les 35 heures, on peut avoir raison contre tout le monde, mais l'expérience des 30 dernières années montre que c'est généralement le monde qui a raison contre nous, en 80, 83 avec la politique de relance, et ensuite avec différents épisodes, 35 heures ou emballement de la dépense et de la dette publique. Donc, quand on regarde les choses de manière objective, donc, la croissance de la France, elle était de 4% dans les années 70 au départ. Elle est maintenant de 0%. On est en récession. On a perdu un point de croissance par décennie. Ça a été 3% dans les années 80, 2% dans les années 90, 1% dans les années 2000. Et puis maintenant, on est en croissance zéro, voire en récession. C'est un pays qui consomme 10% de plus que ce qu'il produit. La production industrielle a diminué de 12% depuis 2007. On a perdu 2 millions d'emplois industriels en 20 ans. Donc, ça débouche sur un chômage énorme. 3 millions de chômeurs officiels, 4,5 millions de personnes qui recherchent un emploi, entre 500 000 et 1 million de travailleurs découragés. Donc, en réalité, un taux de chômage réel de 14 à 15%, comme aux États-Unis, si on tient compte aux États-Unis, de l'effet des travailleurs découragés. C'est le seul des grands pays développés où les coûts de production continuent à croître. Donc la balance commerciale va continuer à se dégrader. Les parts de marché ont été divisées par deux dans le monde depuis 2000. Elles sont passées de 18% dans la zone euro en 90 à 16% en 2000 et 12% aujourd'hui. Le nombre d'entreprises qui exportent a été pratiquement diminué par deux en 20 ans. Problème majeur. Quant à la dette, elle est passée de 20% du PIB en 1980 à 91% du PIB aujourd'hui. Et au-delà de 90, on sait qu'elle pèse négativement sur la croissance et sur l'emploi. Bon, en face, une fois qu'on a dit tout ça, on comprend que par ailleurs, effectivement, on a une société qui est complètement segmentée, une société bloquée entre les exclus, les protégés et ceux qui sont exposés, et que tout ceci nourrit du populisme au plan politique et que ça nourrit également un pays qui, forcément, dont l'influence est aujourd'hui extrêmement réduite et en Europe et dans le monde. Quand les Chinois veulent discuter d'Europe, ils le font avec Mme Merkel, et quand Mme Merkel veut discuter de réforme en Europe, elle le fait aujourd'hui avec Mario Monti et Mario Draghi, et pas avec le président français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et là, il y a une exception française, c'est que ce que je viens de vous décrire ne date pas du choc de 2007-2008. À juste titre, on peut dire que des problèmes de production, de sous-compétitivité, de chômage, de déficit et de dette, on en a aujourd'hui partout dans le monde développé. Mais ces problèmes ont émergé à l'occasion de cette grande crise du capitalisme. Tous ces pays étaient en excédent pour certains et en situation de plein emploi dans les années 2000. En France, le dernier excédent budgétaire, c'est 1973, ce qui ne rajeunit pas. La dernière fois où le chômage a été à 7%, c'est 1977. Nous avons 10% de taux moyen de chômeurs depuis trois décennies. Et vous voyez que ça montre bien le caractère structurel de cette crise, qui n'est pas tellement lié à l'économie de bulle des années 2000, mais à un système politique clientéliste, corporatiste et malthusien, à un modèle économique qui est fondé uniquement sur la consommation, qui est financée par la dépense et la dette publique, et donc à une préférence pour le chômage et la dépense publique qui ont été partagées par la droite et par la gauche depuis trois décennies.
Et vous dites une élite politico-administrative.
Voilà, parce que c'est vrai que parmi les explications, il y en a bien d'autres. Il y a les institutions de la Ve République qui sont un peu autoritaires et fermées. Mais fondamentalement, on a un problème qui vient que la classe politique française est complètement imbriquée, fusionnée avec la haute administration. Donc dans un moment où l'État devient le problème et plus la solution, c'est vrai que c'est compliqué d'initier des réformes avec une classe politique qui représente la partie la plus bloquée du pays, et en même temps celle qui vit directement sur la dette et la dépense, sur la dette et la dépense publique. Alors, donc voilà un peu la situation de l'héritage et le grand danger qui est pointé par les agences de notation. Si vous lisez la note de Moody's, elle dit exactement ça. Le FMI dit ça, les Allemands disent ça et les Italiens aussi. C'est que sur cette économie qui est maintenant en croissance zéro depuis 2011, droite et gauche ont plaqué 65 milliards d'euros d'impôts et de prélèvements supplémentaires, dont plus de la moitié sur des entreprises qui ont le taux de marge le plus bas du monde développé. Donc tout ça va nous fabriquer mécaniquement de la récession. Le chômage va continuer à augmenter. Comme les coûts de production augmentent, la balance commerciale va continuer à se dégrader. Et il sera impossible d'arriver à l'objectif. Évidemment, on n'aura pas les plus 0,8 de croissance, mais on va avoir une récession. Et on n'aura pas les 3% de déficit.
Et donc, ils vont trouver les 60 milliards où ?
Au moment, si vous voulez, la France, l'an prochain, va devoir lever 200 milliards sur les marchés pour se financer. Ça va être le plus gros emprunteur mondial en euros.
188 cette année.
188 et ça va augmenter l'an prochain. C'est le plus gros emprunteur en la zone euro. Elle va être prise en tenaille entre la compétitivité qualité de l'Europe du Nord et la compétitivité prix de l'Europe du Sud. Elle aura tout ce que je viens de dire. Elle ne fait pas de réforme. Donc la probabilité qu'on ait un choc sur la dette française en 2013, elle devient extrêmement élevée. Et c'est ça finalement le problème qui est très dommage. C'est que la France a ce privilège par rapport à ce que vivent aujourd'hui l'Espagne ou l'Italie, c'est qu'elle a eu le temps, à cause de la richesse qu'elle avait accumulée, à cause de sa taille, à cause d'un certain nombre de ses atouts sur lesquels je vais revenir, et à cause de la protection également du couple franco-allemand, elle avait le privilège de pouvoir faire les réformes avec des taux d'intérêt bas, ce qui est très important. Et au lieu de le faire, elle a dilapidé cette espèce de sursis miraculeux pour continuer à consommer sur la dépense publique qui est financée par de la dette, voire à faire l'inverse de tous les autres en revenant à la retraite à 60 ans ou en embauchant des dizaines de milliers de fonctionnaires au moment où les autres sont tous entre 65 et 67 ans et essayent de travailler sur la compétitivité, sur la flexibilité du marché du travail, sur la concurrence dans les services, sur les baisses de dépenses publiques. Alors, c'est d'autant plus dommage que quand on regarde autour de nous, on peut réformer. Les démocraties sont des régimes conservateurs, mais on peut réformer. Regardons le Canada dans les années 90. Le Canada a créé 1,5 million d'emplois depuis 2007. Donc même dans une période de grande crise, quand on a restauré sa compétitivité, fait l'effort de mettre en ordre ses finances publiques, on voit qu'on peut créer de l'emploi. Les Suédois, à cause de la crise bancaire et du blocage de la croissance dans les années 90, des gouvernements sociodémocrates au départ, puis conservateurs, ont redonné de la compétitivité aux entreprises suédoises, restructuré l'État-providence, diminué les dépenses publiques de 10 points de PIB, accélérer l'investissement dans la recherche et le développement. Tout ça donne une croissance de 4% par an et un marché du travail en situation de plein emploi et une recherche et développement de 4,2% du PIB. L'Allemagne, avec Schröder, on en a parlé. L'Allemagne, aujourd'hui, a un taux de chômage de 5,5%. Elle est en pénurie d'emploi, ce qui explique les arrivées massives de jeunes sur toute une partie de son territoire. Le chômage des jeunes est à 7,5%. Ses excédents commerciaux dépassent ceux de la Chine maintenant. Donc c'est quand même la marque. C'est pas un paradis, mais c'est la marque, y compris en Europe, on peut faire avec l'euro, on peut faire de l'industrie, être performant et arriver à générer du progrès économique et social. Donc ça, c'est important parce que ça montre que on peut réformer des démocraties dans la mondialisation, que ça peut être la droite ou la gauche, c'est parfaitement possible. Notre pays, par ailleurs, conserve des atouts importants. Sa démographie, une main-d'œuvre pour la partie qui travaille, qui est productive, bien formée. Nous avons de l'épargne, si on arrête de la taxer à 60%. Nous avons des infrastructures, nous avons des services publics qui fonctionnent encore, un État dont des pans entiers marchent encore de manière satisfaisante. Des capacités de recherche, des universités, et puis dans cette région de Bordeaux, évidemment, on y est sensible, un patrimoine, une culture, un mode de vie, des paysages, une gastronomie qui font que la France a ce privilège d'être la première destination touristique mondiale. Elle est aussi au cœur de ce grand marché européen. Elle a des points d'excellence, la capacité à faire de l'agriculture et de l'agroalimentaire, des pôles d'excellence encore dans l'industrie, le luxe, l'aéronautique. Il en reste également dans les services. Et puis, elle a le tourisme. Donc, si on veut faire repartir ce pays, ce qui est monstrueux, si vous voulez, c'est qu'on l'ait mis dans un état pareil avec les atouts dont nous disposons. C'est la théorie des climats de Montesquieu qui disait « c'est dans les pays riches qu'on peut faire n'importe quoi ». Quand on est le Japon ou le Royaume-Uni, dans des îles qui sont, pour le Japon, soumises au tsunami, au tremblement de terre, et à un climat extrêmement difficile, eh ben, il faut être solidaire et travailler parce que sinon on meurt. Le Royaume-Uni, c'est un bout de caillou avec un climat épouvantable. Bon, ils ont créé la plus grande place financière du monde, a priori, il n'y avait aucune raison, sauf que les Britanniques ont toujours eu le souci de se secouer et d'essayer d'imaginer des choses à vendre au reste du monde, parce qu'ils savent très bien que s'ils restent dans leur île, eh bien, ils ont de bonnes chances de mourir de faim. La France est un pays béni des dieux et qui, malheureusement, régulièrement dans son histoire, en a profité pour mener des politiques complètement irresponsables. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux? Je crois qu'en dehors de l'Europe, dont je vous ai déjà parlé, et qui est un élément très important de cette sortie de crise, parce que si l'Europe repart dans le sens de la croissance, stabilisation de l'euro, relance du grand marché européen, évidemment, ça fera du bien à tous les pays qui en sont membres, et notamment à la France. Mais pour la partie française, il faut nouer quatre pactes. Un pacte productif. Le choix, il est entre déflation et reflation. Donc, par la hausse d'impôts, on fait pas de baisse de salaire, mais comme on fait des hausses d'impôts massives, ça revient à baisser les revenus. Donc ça, c'est le choix de la déflation. Je pense que le choix de la reflation, il passe par la sortie des 35 heures, parce qu'il vaut mieux augmenter la durée du travail que baisser les salaires, selon moi. Ça passe également par la reconstitution des marges des entreprises, effort d'investissement, d'innovation, comme chez nos voisins. Deuxième pacte qui est le corollaire, un pacte social. Il faut de la flexibilité, notamment du marché du travail. Il faut aussi de la sécurité parce que, comme on va devoir travailler jusqu'à 65 ou 67 ans, chacun sait en même temps qu'après 60 ans, on n'a pas le même emploi et on ne fait pas la même chose que quand on a 35 ans ou quand on a 25 ans. Donc ça suppose à la fois de la formation, de la reconversion, de la sécurité pour pouvoir conduire ces mutations dans les vies professionnelles. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un marché du travail qui est tellement cloisonné et segmenté que 25% des jeunes sont au chômage et 50% de ceux qui travaillent avec des formes de travail précaires parce que c'est le prix à payer pour que le noyau dur continue à être protégé. Notamment la fonction publique qui fait 20% de l'emploi dans notre pays. Troisième pacte, le pacte budgétaire. La Cour des comptes a tout dit. Il y a 120 milliards d'euros d'efforts à faire en 5 ans. Tous les pays qui ont rétabli leurs finances publiques ont fait 2/3 de baisse de dépenses, 1/3 de hausse d'impôts. La France, elle a fait 65 milliards de hausse d'impôts depuis 2011. Elle n'a pas fait 1 euro de baisse de dépenses. Il y a 1 000 milliards... Il y a pratiquement plus de 1 000 milliards d'euros de dépenses dans ce pays. Si vous voulez, on peut faire des baisses de dépenses qui sont des dépenses improductives sans nuire à la solidarité. Je vous en donnerai quelques exemples. Bon, d'abord, si on sort des 35 heures, on récupère 24 milliards d'euros d'allègement de charges pour les entreprises. Ça veut dire quand même qu'on investit plus d'1% du PIB dans la destruction de richesses. Hein, et les RTT dans la fonction publique, c'est 4 milliards d'euros. Donc, on récupère 28 milliards en sortant des 35 heures. Ça veut dire qu'on fait quand même une partie importante de l'effort.
On fait comme Monti, on supprime les départements.
Alors, je vais bien, ça fait... En tout cas, il est clair qu'on ne peut pas baisser la dépense publique si on ne réfléchit pas à la protection sociale et puis à un nouveau pacte avec les collectivités territoriales, puisque vous avez raison de souligner que c'est un des principaux points de fuite. Si on compare avec l'Allemagne, il y a 82 millions d'Allemands, il y a 65 millions de Français. La France a 167 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires et elle a 500 000 fonctionnaires en plus par rapport à l'Allemagne. On ne peut pas dire que les Français vivent mieux que les Allemands.
Et un pays extrêmement régionalisé. Parce que
et qui est un pays avec des... Mais c'est vrai que les Allemands, comme les Italiens aujourd'hui, se sont posé la question de réorganiser les compétences et les financements entre l'État fédéral et les Länder. Donc aujourd'hui, on a 7 niveaux d'administration locale, et je ne compte pas... Si vous prenez donc les communes, les intercommunalités, les syndicats divers, les cantons, les départements, les régions, plus l'État, plus l'Union européenne. Si vous voulez, voilà comment... et je vous ai fait grâce de deux ou trois trucs ésotériques. Vous avez, si on veut être complet, les agglomérations, puisque Bordeaux, les communautés urbaines qui sont bien connues ici. Vous voyez que cet empilement est théoriquement... parce qu'il y a un principe constitutionnel d'autonomie des collectivités territoriales, il y a un principe de compétence universelle, donc il y a certes des éléments de spécialité, mais théoriquement, chacun peut tout faire. Donc on aboutit à une gabegie absolument généralisée. Autre exemple, le revenu minimum, je ne pense pas choquer, je crois qu'on sera une quasi-unanimité dans cette salle pour penser qu'il faut un revenu minimum dans une société développée. Mais la France en a trois. Elle a conservé le RMI, elle a rajouté le RSA et elle fait une prime pour l'emploi qui est un impôt négatif. Tous ces dispositifs coûtent entre 9 et 15 milliards d'euros. Oui, un revenu minimum, mais on n'en met pas trois qui obéissent en plus à des principes contradictoires. Autre exemple, la formation professionnelle, ça coûte 24 milliards d'euros. On sait qu'il y a des détournements massifs pour financer les syndicats patronaux et ouvriers. Je suis désolé, les syndicats patronaux et ouvriers, ils ont vocation à être financés par leurs mandants. Et la formation professionnelle, elle doit financer la reconversion. Et puis là-dessus, il y a beaucoup d'argent à récupérer pour arrêter la machine infernale à alimenter les dépenses. Donc voilà quelques exemples, juste simplement pour vous montrer que ce n'est pas que des paroles en l'air, mais que si on regarde objectivement, on peut trouver, sans casser la structure de ce pays, sans dévaster la solidarité, on peut tout à fait prendre des mesures qui ont des impacts considérables et qui permettent de rétablir la situation.
Mais pour ça, il faut du courage.
Oui. Vous voyez d'ailleurs qu'au passage, je me permets quand même de dire que là aussi, droite et gauche confondues, les gouvernements français n'ont eu aucun état d'âme pour dire que les Grecs devaient passer la retraite à 67 ans alors qu'on est revenu à 60 ans. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le seul accord à Bruxelles, c'est pour dire que les fonctionnaires européens doivent travailler 40 heures pour le même prix, ce que je trouve très bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir la rigueur partout en Europe et puis pas pour les 55 000 fonctionnaires de la Commission. Mais si on le fait pour les fonctionnaires de la Commission, ça veut dire qu'il y a peut-être des idées à avoir pour les fonctionnaires français. Là encore, pas du tout pour être désagréable, mais parce que aujourd'hui, c'est vital pour le pays. Donc, pacte budgétaire, pacte citoyen, je vais aller vite parce que le temps passe. Pacte citoyen, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une nation qui se défait avec des communautés, des clans, des territoires qui ne se parlent plus et qu'il faut absolument arriver à réintégrer les jeunes. D'un côté, nous avons 161 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. On parle d'efficacité de la dépense publique, si vous voulez. La France consacre 7% de son PIB. C'est le plus élevé de tout le monde développé. Et ça veut dire qu'on a quand même 20% d'une classe d'âge qui se retrouve. Et quand vous savez ni lire, ni écrire, ni compter dans une société comme la nôtre, très franchement, à part la délinquance et le chômage structurel et l'exclusion, on ne vous promet pas grand-chose d'autre.
Ça vous étonne ? On envoie les instituteurs les moins formés dans les quartiers les plus difficiles et pas les professeurs les plus aguerris.
On est bien d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes majeurs de gestion de l'éducation nationale. Il y a aussi des programmes à mettre en place parce que pour le coup, il y a des dépenses publiques utiles. Je pense que ce que Tony Blair avait fait au Royaume-Uni, c'est-à-dire des aides pour les enfants pauvres en situation d'échec scolaire avec un traitement personnalisé pour éviter donc les gens partent entre 14 et 16 ans du système scolaire, mais tout est acquis à 8 ans. Ça, toutes les études l'ont démontré. Donc le drame, c'est l'école primaire. Et c'est bien l'exclu. Une fois que les gens sont dans cette situation à 8 ans, on ne cesse d'aggraver le problème et on n'arrive pas à le récupérer après. Donc il est clair qu'entre... Vraiment, dans cette période qui est entre 5 et 8 ans, il y a un effort majeur à faire pour éviter ce gâchis énorme. Puis de l'autre côté, on a 50 000 jeunes qui partent tous les ans, comme je vous l'ai dit, parce que on leur ferme la porte ou parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans notre pays. Donc ça, il faut absolument arriver à le contrer. Donc j'en finirai par là. Vous voyez que j'espère vous avoir montré que c'est facile nulle part. de faire des réformes, même pas en Chine, comme on le voit aujourd'hui. Donc, toutes les sociétés sont conservatrices. Partout, il y a des lobbies, des centres, des intérêts qui s'opposent au changement. Tout le monde doit aujourd'hui réfléchir à la manière de faire des gains de productivité, à la manière de faire des réformes et de mettre de l'innovation à tout niveau, les entreprises, l'État, les collectivités, à la manière de coopérer pour éviter, parce que les stratégies coopératives en Europe et dans le monde sont toujours supérieures aux stratégies non coopératives, et puis à essayer de faire vivre la démocratie pour éviter l'emballement des populismes. Et donc, c'est vraiment ça, et je rejoins le plaidoyer qui a été fait. Aujourd'hui, notre pays se retrouve un peu comme en 81, à faire une politique qui est complètement orthogonale à l'ensemble du reste du monde développé. C'est un pays qui se met en risque et qui met en même temps avec lui en risque toute l'Europe. Donc je crois qu'aujourd'hui, le choix, il est entre faire les réformes à notre initiative de manière volontaire ou les faire comme en 83, sous la pression croisée des marchés, du FMI, de nos partenaires européens et de l'Allemagne. Ce serait évidemment... ça sera très coûteux en termes économiques, ça sera très coûteux en termes sociaux, et ce serait honteux pour la démocratie française, puisque, et c'est bien l'esprit de ce livre, moi je crois vraiment que ce sont les citoyens qui sont dans les démocraties les responsables ultimes de la conduite des affaires du pays, et c'est pour ça que j'essaye de m'adresser à eux, puisque la classe politique française, malheureusement, n'a pas fait montre de beaucoup d'énergie et de clairvoyance depuis les 30 dernières années. Je pense que c'est aujourd'hui par les citoyens qu'on peut essayer de moderniser notre pays pendant qu'il en est encore temps. Merci beaucoup.